vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Mais vous aimez le cinéma et au micro, Béatrice Malige, et derrière, dans son aquarium, Stéphane. Alors oui, aujourd'hui, écoutez, je vous parle de Bette Davis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle aurait 109 ans. C'est quand même formidable, non? Alors, elle est décédée en 89, hein, mais c'est un personnage, je me suis dit... Enfin, on l'a pas oublié, les cinéphiles ne l'ont pas oublié. Mais c'est vrai qu'elle avait un visage un petit peu ingrat. Elle jouait les garces. Dans la vie, on peut pas dire qu'elle était garce, mais enfin, c'était quand même un personnage un peu rude et qui a mené sa carrière tambour battant et qui s'engueulait beaucoup avec John Crawford. Vous voyez, c'était aussi une autre personnalité formidable. Voilà, et donc je me suis dit, tiens, parler de Bette Davis, c'est aussi, d'ailleurs vous en rendrez compte au cours de la demi-heure, c'est aussi parler de Mankiewicz, un réalisateur que j'aime beaucoup et de qualité. Alors revenons à Bette Davis. Eh bien, c'est quelqu'un, oui, qui était, on disait que c'était un monstre de contradictions, parce qu'en effet, elle était très égocentrique, mais en même temps, quelquefois, il faut l'être, hein, mais sans vanité, très extravagante, assez vacharde, et évidemment, à l'écran, elle a joué beaucoup de garces, hein, et donc ce qui fait que, vous le savez, les gens, quand ils regardent une comédienne qui joue une garce, ils pensent que la comédienne est une garce. Ben non, voyez-vous, c'est quand même, c'est une actrice, évidemment. Alors, il se trouve que Bette Davis était née le 5 avril, donc en 1908, et très vite, elle a toujours aimé focaliser un peu les regards sur elle, voilà. Et donc, elle va commencer par de la danse, et puis ensuite, elle va rentrer dans la troupe de Georges Cukor, et puis elle va être, on peut dire, d'une certaine façon, happée par la Warner, et ça a été à la fois positif et négatif, parce que la Warner, c'était une maison de production qui, empêchait les gens, enfin, ils les mettaient sous contrat, et donc elle était obligée d'accepter des rôles qui n'étaient peut-être pas forcément toujours excellents, donc elle s'est insurgée, elle râlait tout le temps, et en même temps, elle était bien obligée de continuer. Alors, il se trouve qu'elle a Elle a fait beaucoup de séries qui étaient où elle ne pouvait pas donner la mesure de ce qu'elle pouvait donner, évidemment. Et elle va à un moment tourner avec la RKO d'une façon tout à fait particulière. Et elle va obtenir un rôle qui va lui donner un Oscar. Alors c'est là que tout d'un coup, la Warner va dire « Mais attendez, on peut peut-être lui faire faire des choses plus intéressantes, évidemment. » Et donc ce film, c'était en 1935, c'était L'Intruse. Et c'est là qu'elle obtient son premier Oscar. Et pourtant, avant, à la Warner, elle avait fait un film qui était pas mal, mais... Ça passait un peu inaperçu parce que c'était l'artillerie lourde, ils faisaient des films en pagaille, évidemment. Et ça va malheureusement continuer. Et tant à la Warner, elle va encore avoir du mal à faire des films. Elle ne fait que des films mineurs, d'une certaine façon. Et elle se bat continuellement, d'abord parce qu'elle a besoin d'argent, donc elle est bien obligée de subir. Et en même temps, elle aimerait bien des rôles de qualité et qui ont du mal à venir, voilà. Et puis, il va y avoir quand même une période prospère, tout simplement, parce que c'est la période, nous sommes en 39, on va dire, on commence ce grand projet « Autant en emporte le vent ». Et la Warner décide donc de rivaliser et elle veut aussi une épopée sudiste. Et donc il va la Warner prend acquiert le Jezebel, enfin c'est un scénario, et elle donne à Bette Davis le rôle principal, et elle donne la réalisation, la Warner donne la réalisation à William Wheeler. Et William Wheeler, on l'appelait d'ailleurs Wheeler 40 prises parce que il faisait 40 prises en effet au bas mot parce qu'il était extrêmement tatillon, maniériste et eh bien écoutez, il a été d'un grand secours pour Bette Davis parce que ça l'a calmé. D'ailleurs elle disait, il y a tant, alors vous voyez un peu le style parce que ça je cite dans le texte, Bette Davis disait il y a tant de lavettes parmi les réalisateurs, aucun d'eux ne m'a sécurisé comme l'a fait ce tyran. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il lui fallait. C'est-à-dire, à la fois, elle souhaitait être sous l'emprise d'hommes extrêmement forts, et en même temps, elle n'arrêtait pas d'essayer de les humilier, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est quand même un personnage un petit peu particulier. Et donc, ce film, L'Insoumise, en 1938, c'est pas L'Insoumise, c'est Jezebel. Eh bien, on est en 39, elle a 30 ans, elle obtient un second Oscar. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il ne faut quand même pas oublier des gens comme ça, parce qu'aujourd'hui on parle des Oscars, on nous en fait d'un fromage, avec des comédiennes qui tout à fait discutables. En revanche, voilà, c'est donc quelqu'un qui a eu à l'époque vraiment des Oscars et extrêmement bien mérités. Et puis en même temps, il se trouve que Bette Davis, elle n'hésite pas à... Il faut dire qu'elle a un physique, je vous le disais, un petit peu ingrat. On la vieillit, ça ne la dérange pas. Et d'ailleurs, c'est dans un film, ça s'appelle « La vie privée d'Elisabeth d'Angleterre », un film en 1939. Eh bien, elle fait une sexagénaire, alors qu'elle n'a que 30 ans, évidemment. Et donc, elle aurait bien voulu avoir comme partenaire Laurence Olivier. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et donc, elle a eu Errol Flynn. Et on lui donne comme réalisateur, vous voyez, comme toujours, elle est obligée de subir, Michael Curtis, qui est assez tyrannique. En revanche, elle ne l'aime pas du tout, elle s'entend pas du tout, alors c'est toujours des heurts terribles, enfin voilà. C'est vrai qu'elle est comment dire, entourée de tas de problèmes continuellement, évidemment. Ensuite, elle continue, elle a été nommée aux Oscars en 1942, je crois que c'était un film, en revanche, je me souviens plus du nom réalisateur, mais toujours signé, enfin produit par la Warner, c'était Une femme cherche son destin. Vous voyez, c'est toujours des femmes fortes, évidemment. Et puis, alors, en revanche, ce qu'elle a fait, qui est aussi remarquable, c'est qu'en 1942, au moment de la guerre, elle va, non pas s'enrôler, mais elle va faire des efforts de guerre terribles. Elle va avec son mari de l'époque, parce qu'elle a eu 4-5 maris, enfin bon, je passe sur les amants, enfin bon, peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais en revanche, elle va sur le front essayer de passer des films, faire des choses pour le moral des troupes, quoi. Donc, elle a été très, très efficace, évidemment. Puis elle a essayé à un moment de produire elle-même. Bon, ça n'a pas été terrible non plus, ça n'a pas très bien marché, voilà. Et enfin arrive, et c'est là où je voulais en venir, avec des films quand même incontournables qui sont vraiment des chefs-d'œuvre. Il s'agit d'abord de Eve, nous sommes en 1950, et donc c'est un film qui a été plusieurs fois nominé, on y reviendra, je m'arrêterai un peu plus précisément sur Eve, film de Mankiewicz, un film qui, je crois qu'il a eu 5 Oscars en 1951, avec un réalisateur donc, moi, que j'apprécie beaucoup. Et donc je vous propose tout de suite, Stéphane, on va écouter la bande-annonce de Eve, film de 1950 de Mankiewicz.
Miss Davis, ever since I've been on this set, I've heard nothing but discussion of Eve. May I have your opinion of her?
The golden girl, the cover girl, the girl next door, the girl on the moon. Time's been very good to Eve. Life goes where she goes. She's been profiled, covered, revealed, reported. What she wears and where and when, whom she knows, and where she was and when and where she's going. Eve has insatiable ambition and talent. An improbable person with a contempt for humanity, an inability to love or be loved.
But how can such a woman fool so many?
How does any Eve do it? She's a girl of so many interests.
Pretty rare quality these days.
A girl of so many rare qualities.
So she seemed.
So you've pointed out so often. So many qualities so often. Her loyalty, efficiency, devotion, warmth, and affection, and so young. So young and so fair. Eve, my understudy.
Didn't you know?
Of course I knew.
Just slipped your mind.
Find out.
Only thing. What I go after, I want to go after. I don't want it to come after me.
Don't get up. And please stop acting as if I were the queen mother. I'm sorry I didn't.
Outside of a beehive, Margot, your behavior would hardly be considered either queenly or motherly.
You're in a beehive, pal, didn't you know? We're all busy little bees, full of stings, making honey day and night. Aren't we, honey? Very touching, very Academy of Dramatic Arts.
That bitter cynicism of yours is something you've acquired since you left Radcliffe.
That cynicism you refer to, I acquired the day I discovered I was different from little boys.
Come on, get up. I'll buy you a drink.
I'll admit I may have seen better days, but I'm still not to be had for the price of a cocktail, like a salted peanut.
What's so funny?
Nothing.
Nothing?
Everything. Everything's so funny.
Thank you.
Voilà, donc vous venez d'entendre la bande-annonce du film Eve de Mankiewicz. Alors, c'est un film, je vous le disais, qui a reçu 5 Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, donc Mankiewicz, meilleur scénario de Mankiewicz. C'est une adaptation d'ailleurs d'une courte nouvelle de Marie Orr. Ça s'appelait The Wisdom of Eve. Et c'est un livre qui avait été acheté par la 20e siècle. Enfin bon, bref, la maison de production que vous connaissez, qui était un peu l'équivalent de la Warner dont je viens de vous parler. C'est un film qui a eu aussi le meilleur second rôle masculin, George Sanders, meilleur son, meilleur costume. Enfin bon, vous le voyez, c'est vraiment un film qui était très intéressant. Alors, le personnage principal est joué donc par Bette Davis. Il s'agit de Margot Channing. C'est une comédienne qui joue au théâtre. Et le grand problème, c'est qu'elle a des problèmes avec son propre double. Qui est-elle, au fond? Est-ce qu'elle est le personnage qu'elle joue dans ses pièces de théâtre? Elle n'arrive pas à être elle-même. Et c'est en même temps, bon, elle joue aussi sur la vieillesse, hein, des comédiennes qui vieillissent, donc tout ça est très intéressant. Et on s'aperçoit qu'elle fait du théâtre non seulement sur les planches, mais aussi dans la réalité. Et la question qu'elle se pose, c'est hors de la scène, qui est-elle? Voilà, c'est donc un problème essentiel qui est d'ailleurs revu et corrigé souvent par Mankiewicz dans la plupart de ses films. Si, donc, là, son intrigue est dans le milieu théâtral, et c'est vrai que je ne dirais pas tous les films, mais beaucoup de films de Mankiewicz sont enfermés dans cette logique du double. Notamment Eve, elle ne rêve que de devenir la star qu'elle voit dans les magazines. C'est son rêve. Et Margot, donc la comédienne, est enfermée dans son double. Simple reflet du miroir dans lequel elle se complaît d'ailleurs si souvent. On la voit très souvent, elle ne peut pas passer devant un miroir sans se regarder, évidemment. C'est donc une actrice qui ne parvient pas à se faire aimer pour ce qu'elle est, mais simplement sur scène et souvent pour ce qu'elle n'est pas. Et ça, c'est quand même quelque chose qui fonctionne très bien avec Bette Davis. C'est un peu ce qui est arrivé, ce que je vous disais tout à l'heure. Elle joue des rôles de garce, on la prend pour une garce, bien évidemment. Alors, c'est un film qui d'ailleurs la même année à Cannes a reçu le prix du jury, et Bette Davis a reçu le prix de la meilleure actrice. Et c'est aussi un film dont le scénario a été récompensé par les Golden Globes. Donc c'est un film évidemment très intéressant. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion que nous replongions dans cet univers de Eve. Alors il faut savoir que c'est un film qui a été produit par Daryl Zanuck, vous savez, qui a été à un moment le compagnon de... comment elle s'appelle, celle qui chante la muse de Paris, enfin, ah zut, bon, enfin bref, je ne retrouve pas le nom, je vous le retrouverai. Et donc, alors Daryl Zanuck, lui, il voulait que ce soit Marlène Dietrich qui tienne le rôle de Margot Channing. Et quant à Mankiewicz, lui, au démarrage, il souhaitait plutôt que ce soit Claudette Colbert. Et finalement, ben, vous voyez, ça a été Bette Davis, c'est pour son plus grand bonheur, puisque ça a été quelque chose de très important pour elle. Alors, je reste un petit peu sur Mankiewicz, parce que c'est quelqu'un, je vous le disais, qui a commencé dans le cinéma. Enfin, il était d'abord journaliste, et puis ensuite il est rentré à la Paramount, où il était dialoguiste, scénariste, puis ensuite il est allé à la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, comme vous le savez, la Metro-Goldwyn-Mayer, pardon. Voilà, il a travaillé aussi avec Ern Lubitsch, et puis il a fait un film, et c'est là où je voudrais qu'on s'arrête 30 secondes, parce que c'est un film tellement charmant. Il s'agit de L'aventure de Madame Muir. Et donc je propose, Stéphane, qu'on écoute tout de suite la bande-annonce de L'aventure de Madame Muir.
Even before this appeared, 20th Century Fox had bought this story and made elaborate plans for it. Because of its gay, adventurous, romantic, and entirely different qualities, it was decided to make it one of the top pictures of the year. Jean Tierney, star of The Razor's Edge, Lever to Heaven, and Laura, was chosen for the coveted role of Lucy Muir. Rex Harrison, who scored an instantaneous hit as the King in Anna and the King of Siam, was selected to play the robust, gruff, and hearty Captain Gray. George Sanders appears as the amorous interloper, Miles Fairley.
I never frighten little girls into fits.
But think of the bad language she'd learn, and the morals.
Confound it, madam, my language is most controlled. And as for my morals, I lived a man's life, and I'm not ashamed of it. But I can assure you no woman's ever been the worse for knowing me. And I'd like to know how many mealy-mouthed blue noses can say the same.
She's much too young to see ghosts.
Very well. I'll make a bargain with you. Leave my bedroom as it is, and I'll promise not to go into any other room in the house. And your brat need never know anything about me.
But if you keep the best bedroom, where should I sleep?
In the best bedroom.
I'm only here now because I followed you back. So you may have my appointment, for which you are just in time.
That's very good of you, but I'm afraid I can't accept.
Now, my dear young woman, if you will set your book of social graces aside just long enough to seize an opportunity that you want very much by merely indulging a small, natural, selfish instinct.
Without doubt, sir, you are the most forward gentleman I have ever encountered.
You should have pushed him out of the cab. In another minute, I would have.
Why, Daniel, I believe you're jealous.
Of course I'm not jealous. You take me for a blasted schoolboy. Besides, jealousy is a disease of the flesh.
Vous venez d'entendre donc la bande-annonce du film The Ghost and Madame Muir, c'est-à-dire l'aventure de Madame Muir, de film de Joseph Kamenkiewicz, qui a été tourné en 1946 et qui a été, enfin on l'a connu, il a été diffusé en 1947. Alors je vais vous dire, c'est un film de Mankiewicz qui est assez exceptionnel parce que il réussit avec brio le mariage entre le réel et l'irréel. Voilà, c'est-à-dire c'est le triomphe en même temps aussi dans ce film, le triomphe de l'amour sur la mort. C'est un film romantique, évidemment on pourrait dire ça, mais c'est d'un romantisme noir. Et je crois que ce film, la qualité aussi qu'il a, c'est qu'il parle de cinéma. C'est-à-dire, il montre la supériorité du rêve sur la réalité. Et je crois qu'il faut le savoir, c'est la définition du cinéma. La supériorité du rêve sur la réalité. Et d'ailleurs le fantôme, puisqu'il s'agit d'un fantôme, le fantôme de Madame Muir, il dit à Lucie, donc Madame Muir, je cite, c'est son dans ses dialogues, « Je suis réel. Je suis ici parce que vous croyez que je suis ici. Continuez à le croire et je serai toujours réel pour vous. » C'est magnifique ça comme idée. Et donc c'est un film qui joue, comme je vous le disais dans la plupart des films de Mankiewicz, sur cette dualité avec d'emblée la vie réelle de Lucie, donc Madame Muir, au milieu de sa belle famille, bourgeoise, austère, et son envie de vivre sa propre vie. Vous voyez toujours cette dualité constante. Et d'ailleurs, le film commence, les premiers mots de Madame Muir, c'est « Ma décision est prise. Je n'ai jamais vécu ma propre vie. J'ai ma conception de l'existence et vous la vôtre. Elles sont inconciliables. » Donc ça veut dire qu'à partir de là, et ces paroles, il y en a beaucoup, on a d'ailleurs reproché à Mankiewicz d'avoir des films trop bavards. Ben oui, mais non, mais lui c'était son truc, il trouvait que les personnages qui parlent, c'est pas lui d'ailleurs, ce sont les personnages, et il aime, il met en valeur les textes, mais il sait aussi jouer des silences évidemment. Et donc on le voit donc dans cette première partie The Ghost and Madame Muir, Mrs. Muir, les paroles de Lucie montrent donc le hiatus qu'il y a entre sa belle famille et la sienne, et donc elle apparaît d'ailleurs en insert, enfin bon voilà, je ne vais pas vous raconter tout le film parce que là aussi il faudrait vraiment du temps pour en parler, mais je pense que c'est un film qui est vraiment charmant, je crois que, et même la dernière séquence sur le plan, enfin voilà, c'est sur le dernier plan, c'est des images magnifiques, voilà, et donc c'est un croire aux fantômes, au fond c'est croire un peu à l'amour, hein, et à la fin, enfin je ne vais pas raconter le film, mais on rentre dans une jeunesse, l'imaginaire éternel. Et le rêve, je crois que le rêve, c'est la source d'éternité. Si on ne rêve plus, et c'est ce que je retrouve aujourd'hui, quelquefois ça me gêne un peu, c'est qu'on ne parle plus d'imaginaire. On veut que tout soit ancré dans le réalisme. Eh bien, à mon avis, on se coupe complètement de l'essentiel de la vie. Et quand je dis essentiel, je pèse mes mots, évidemment. Alors donc, vous voyez, j'ai un peu fait une digression, mais bon, vous m'en voudrez pas. C'est parce que je parlais de Bette Davis, et donc comme elle a tourné avec Mankiewicz, ça me paraît essentiel essentiel de parler de Mankiewicz. Alors je reviens juste un tout petit peu sur Bette Davis pour dire que en 1977, je ne sais plus quel âge elle a, 80 balais je crois, enfin dans ces eaux-là, elle est récompensée pour l'ensemble de sa carrière. Et puis bon, malheureusement, elle est tombée malade. Mais enfin, on peut dire que c'est quand même quelqu'un qui. D'ailleurs, elle disait parce qu'elle a, alors en revanche, il y a eu un grand problème avec sa fille. Sa fille a écrit un livre sur Bette Davis. Alors ça, Bette Davis, elle a cassé parce que elle a accablé complètement sa mère et d'une façon absolument injuste. Je pense qu'il devait y avoir aussi une jalousie ou des trucs qui n'étaient pas clairs. Enfin bon, c'est vraiment regrettable. Et donc, elle a quand même continué toujours à tourner parce qu'elle adorait l'ambiance du tournage. Voilà. Et donc, elle disait, l'expérience m'a enseigné que les rapports humains ne sont pas durablement gratifiants. Seul le travail apporte une véritable satisfaction. Et en effet, on peut dire qu'elle a toujours travaillé et son meilleur rôle, c'était quand même sa propre vie parce que c'était quand même une vie assez exceptionnelle. Voilà. Donc, c'était un petit hommage à Bette Davis. Mais puisque je vous parlais de Mankiewicz, on va terminer cette demi-heure avec Mankiewicz et notamment un film. On va tout de suite écouter la bande-annonce de ce film qui est aussi un film formidable et qu'il faut absolument avoir dans ses vidéothèques. C'est un film qui magnifie, toujours de Mankiewicz, mais qui magnifie la femme. C'est donc La Comtesse aux pieds nus, un film de 1954 avec Humphrey Bogart et Ava Gardner, la sublime Ava Gardner. Alors Stéphane, ça va? Tu n'es pas troublé par le fait même d'avoir parlé d'Ava Gardner? Bon, ok, il va essayer d'appuyer sur le bouton. Allons-y.
At a glittering premiere surrounded by her fans, or at her wedding before the eyes of the world, in the platinum-plated rooms of Monte Carlo, or on a millionaire's yacht, they all worshipped the face, the fame, the figure of the world's most beautiful actress. Barefoot Contessa will shock you, provoke you, excite you, as no motion picture before it ever has. For no motion picture before it has dared to tell a story so revealing.
Where are you, Maria?
Half in the dirt and half out.
Then it hasn't been good for you.
Oh, in many ways it's been beyond my dreams. Like a fairy tale of this century.
Written and directed by Academy Award winner Joseph L. Mankiewicz, the man who brought you Letter to Three Wives, All About Eve, Julius Caesar, and many other memorable films.
Voilà, vous venez d'entendre donc la bande-annonce de La Comtesse aux pieds nus, film de 1954 de Joseph Mankiewicz, en technicolor, hein, voilà, et avec Humphrey Bogart et Ava Gardner. Et donc, Mankiewicz, je vous le disais, après avoir fait Eve, hein, avec Bette Davis, puisque je me focalisais sur Bette Davis et Anne Baxter, c'était, je vous l'ai dit tout à l'heure, un film qui a été couvert d'Oscars, de récompenses, et ça décrivait le monde du théâtre avec deux comédiennes. Il y en avait une qui était plus vieillissante, on va dire, et l'autre débutante, très ambitieuse. Voilà, et donc on s'apercevait que hors de scène, la comédienne n'était rien. Ben, c'est un film pour La Comtesse aux pieds nus qui reprend un petit peu cette idée. Ça a annoncé, mais je pense que La Comtesse aux pieds nus est beaucoup plus ironique, beaucoup plus satirique vis-à-vis du monde du cinéma. Et donc il y a dans La Comtesse 8 flashbacks, comme il y avait déjà dans le avec Eve et avec 4 narrateurs et ce sont des ça permet en plus le mensonge, enfin voilà, parce que la parole là aussi est très importante parce que c'est une arme, les mots sont des armes, hein. Peut-être qu'il y en a trop, mais bon, c'est comme ça, c'est la marque de fabrique de Mankiewicz. Mais en même temps, il y a des grands moments de danse, d'ailleurs on a entendu dans la musique où tout d'un coup c'est un film d'ailleurs, La Comtesse aux pieds nus, c'était un film que Truffaut a apprécié beaucoup. Alors, le scénario est de Mankiewicz, et c'est vrai qu'au démarrage, il avait envie d'en faire un roman, parce qu'au fond, c'est un seul et même acte, c'est l'enterrement de Maria, de Ava Gardner, avec une séquence, et donc, toutes les séquences qui interviennent arrivent en flashback. Et donc, il montre un personnage, mais aussi trois microcosmes. Il y a d'abord celui d'Hollywood, donc ça lui permet d'assassiner un peu les gens d'Hollywood, parce que c'est vrai que c'était pas, je vous le disais tout à l'heure, même Bette Davis en a beaucoup souffert, le fait d'être vraiment, c'est presque en prison quand vous êtes dans une, vous êtes maqué d'une certaine façon avec une entreprise de production. Donc dans ce film, il y avait donc la critique dans La Comtesse aux pieds nus, Mankiewicz donc critiquait le microcosme d'Hollywood, la jet set sur la Riviera française et l'aristocratie italienne. Donc tout ça est extrêmement cassé, et donc il y a toute une on peut dire que des goujats, il y en a un peu dans tous les circuits, si je puis dire. Et donc le personnage central, c'est Ava Gardner, qui est magnifique parce qu'elle est elle est à la fois un monstre de froideur, mais en même temps on sent qu'elle est incomprise. C'est une Cendrillon, la comtesse aux pieds nus d'ailleurs, et elle espère un prince, et il va arriver sous la forme d'un conte. Seulement le problème, c'est que ce compte, ben il n'est peut-être pas exactement comme elle l'aurait souhaité, évidemment. Et donc, il y a le récit de cette Maria, donc Cendrillon, fait un flashback, comme je vous le disais. C'est comme un élément d'un puzzle pour cerner le personnage. Alors, il y a d'abord Harry, joué par Humphrey Bogart, qui raconte, il est réalisateur, scénariste, il explique comment Ava Gardner est arrivée, enfin Maria est arrivée dans le cinéma. Et puis ensuite, il y a un deuxième récit par Oscar, qui est l'assistant d'un producteur, qui lui aussi explique, c'est le troisième flashback. Puis après, il y a Harry, puis enfin Oscar, et puis etc., etc. Donc, et ça, et en même temps, ça paraît complexe, ça ne l'est pas du tout, hein. Et ça veut dire que tout d'un coup, Maria, elle traverse plusieurs mondes. Il y a celui de la pauvreté, celui du cinéma, et puis des richissimes, et puis des aristocrates. Et on s'aperçoit, comme je vous disais tout à l'heure, des goujats, il y en a partout. Voilà, donc, c'est-à-dire qu'à la fin, elle va terminer, elle va tomber sur un comte, et qui est en même temps incapable de se faire aimer. Et elle en parlera évidemment à Humphrey Bogart, qui est un confident, mais il arrive trop tard. Donc, vous voyez, en plus de ça, c'est une vie comme toutes les vies, très en mouvement, voilà. Et donc Truffaut disait de ce film, ce sujet n'est pas de ceux que l'on critique. On le refuse en bloc ou on l'accepte. Et pour ma part, je l'accepte et l'apprécie pour tout ce qu'il apporte de nouveauté, d'intelligence et de beauté. Et moi, pour ma part, vous me direz qu'on s'en fout, mon avis, tout le monde s'en fout, mais quand même, je le donne. Je trouve, moi, ce qui m'avait stupéfait dans ce film, quand je l'ai découvert, c'est que tout d'un coup, Mankiewicz ose, comme il y a plusieurs points de vue, il filme la même séquence d'un point de vue différent. Et donc, effectivement, la caméra n'est pas mise au même endroit. Et tout d'un coup, on voit les choses autrement. Moi, je trouve ça absolument incroyable, parce qu'après, tout le monde l'a repris. Enfin bon, moi, c'est ce qui me plaisait aussi dans Elephant de Gus Van Sant, mais en même temps, il n'a rien inventé, quoi. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment Mankiewicz, vous voyez, comme Bette Davis, sont des gens, on a tendance à les oublier. Ben écoutez, moi, je suis là pour qu'on ne les oublie pas. Voilà. Et en même temps, vous voyez comme quoi les gens sont quand même très bizarres, parce que bon, allez, je vous le dis, il se trouve qu'elle se marie avec le comte, et le comte est impuissant. Aïe, mince. Eh ben écoutez, dans le cinéma, quand le film est sorti, les gens riaient parce que ce pauvre comte était impuissant. Avouez quand même. Heureusement, aujourd'hui, quoi qu'on rit de bien d'autres choses et on ne devrait pas en rire, mais enfin voilà. Et donc, c'est-à-dire voilà, c'est chaque chose en son temps. Voilà. En tout cas, voilà, je suis très contente d'avoir parlé de Bette Davis, et qui aurait 109 ans aujourd'hui, et de Mankiewicz, mais j'aurai l'occasion certainement de revenir surtout sur Mankiewicz. Stéphane, merci, tu vas t'en sortir. Alors, pour faire plaisir à Stéphane, nous allons réécouter, parce que lui, il a l'image sous les yeux, alors inutile de vous dire que là, vous n'existez plus. Il a sous l'image notre chère comédienne Ava Gardner, qui est en train de danser dans une danse extrêmement lascive. Au revoir, Stéphane, au revoir.